on va aller parler un petit peu du festival d'été en attendant. Ne vous en faites pas, on revient sur l'alerte Amber et cette histoire-là un petit peu plus tard à l'émission. Mais en attendant d'aller pouvoir recueillir les informations, il y a un autre sujet dont il fallait parler aujourd'hui, en ce 9 juillet. Parce qu'aujourd'hui, c'était officiellement l'ouverture du Festival d'été de Québec édition 2020. Et la météo, il fait très, très chaud aujourd'hui. Je peux imaginer que ça aurait été une très, très belle soirée, sauf si, bien sûr, il y a une veille d'orage violent qui est encore en vigueur présentement. Et on espère vraiment que ça n'aurait pas eu lieu ce soir, cet orage-là, parce que ça aurait pu être une petite ombre sur cette ouverture du festival d'été-là. Par contre, on parle vraiment au passé, parce que le festival d'été 2020 a été annulé. Qu'est-ce qui va arriver pour l'année à venir? Est-ce qu'on va travailler sur des bookings quand même? Est-ce qu'on peut espérer un festival d'été en 2021. Pour en parler, on va rejoindre à l'instant Louis Bellavance, il est directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Monsieur Bellavance, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Bellavance, j'imagine que c'est une journée un petit peu triste hein, pour vous. Moi, j'ai une amie qui travaille pour le Festival d'été de Québec, puis je sais que les dernières semaines et aujourd'hui particulièrement, ça a été très, très difficile.
Oui, mais c'est aussi l'occasion de tourner la page puis de regarder résolument en avant. D'aller faire des entrevues aujourd'hui sur le site des Plaines complètement vide, c'est particulier. J'avais pas prévu ça dans ma journée, ma planisse de réconciliation avec l'annulation, mais peut-être que ça passait aussi par aller marcher sur cette scène-là qui n'est pas là. Somme toute, c'est pas une grande tragédie. On parlait d'alerte Amber tout à l'heure. Ça nous rappelle à quel point tout ça, pour mettre ça en perspective, le divertissement, c'est merveilleux, puis les gens y tiennent beaucoup, puis nous aussi. Mais il y a des enjeux drôlement plus importants, dont ceux de santé publique, et puis on se range derrière ça, évidemment. Puis on essaie de regarder vers la suite, à ce point-ci, c'est ce qui nous préoccupe.
Ben justement, parlons-en un petit peu de la suite. On sait qu'une programmation pour un festival aussi gros que le FEC, ça se règle pas un mois et demi à l'avance. Là. Fait que si on a l'intention de peut-être avoir une édition l'année prochaine, il faut commencer à y travailler dès maintenant et pour les prochaines semaines, les prochains mois. Là, est-ce qu'on comprend que toutes les activités du FEC sont sur la glace ou vous allez quand même agir comme s'il allait avoir un festival l'année prochaine?
Nous, on a eu à se repositionner. On a pris évidemment du recul. On a eu à gérer cette annulation-là, les remboursements aux festivaliers qui étaient notre priorité, qui a été traité promptement. Puis ensuite, évidemment, on a eu des enjeux importants au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, ça nous a beaucoup occupés. Et puis tout de suite après, on s'est mis en mode 2021. Comment on aborde cette situation-là? Évidemment, personne ici aujourd'hui ne peut nous dire à quel moment ce virus-là va être traité. Est-ce qu'on va trouver justement des traitements pour que ce soit pas mortel? Est-ce qu'on va avoir un vaccin? Est-ce que la décontamination va tellement bien se passer qu'on va pouvoir se permettre des rassemblements comme ceux-là? Ça, c'est des questions pour la santé publique. Nous, on n'est pas partie prenante et on ne sera pas consulté pour la suite. Mais il va arriver un moment où on va nous dire, vous êtes libre de présenter un événement. On s'attend à ce qu'il y ait des contraintes, évidemment, même si c'est dans une plus longue période. Et puis, on a remonté un modèle d'affaires, on a reconstruit sur papier une façon de travailler pour 2021 pour se relancer dans l'action, parce qu'effectivement, c'est un processus qui est très long. Et puis qui est devancé cette année parce que l'industrie au complet ayant dû prendre une pause forcée, on s'est tout de suite tourné vers l'année prochaine et maintenant les artistes sont prêts à discuter, les équipes des artistes sont prêts à conclure des tournées. Donc nous, on est prêts à danser aussi, puis on a monté un scénario, puis on prend le pari qu'il y a un événement en 2021. C'est le seul scénario qu'on considère pour l'instant. Et puis, on sera prêt. On va avoir une offre. On va avoir une offre intéressante. Et puis, après, bien évidemment, on va attendre les signaux comme tout le monde.
Mais est-ce que, là, bon, je comprends que de votre côté, vous allez effectivement travailler cette année comme s'il y avait une édition. Mais est-ce que les artistes sont au rendez-vous au moment où on se parle ou eux-mêmes ont décidé de ne pas s'occuper de leur booking pour les mois à venir? Ou est-ce qu'il y a des artistes qui sont totalement fermés, même à discuter présentement?
Non, tout le monde est très actif parce que faut considérer que ça attaque le portefeuille dangereusement, oui. Cette situation-là. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la nouvelle réalité du numérique, les artistes tirent une portion très importante de leurs revenus des concerts.
C'est vrai.
Dans ce contexte-là, on est une priorité. Un événement comme le nôtre et comme beaucoup d'autres, c'est une priorité pour beaucoup d'artistes. C'est important pour eux de faire partie de la relance. et personne veut être laissé derrière. Et comme tout le processus est devancé, il y a beaucoup d'artistes évidemment qui vont chercher à revenir dans les mêmes cases, dans les mêmes événements. Donc les discussions sont déjà bien amorcées. Et puis c'est positif, c'est favorable. Maintenant, il va falloir aussi garder ça dans un contexte en ce moment qui est ambigu parce que tout peut arriver, mais il y a quand même, on pense, de très très bonnes chances qu'il y ait des solutions en termes de santé publique d'ici à l'année prochaine. C'est quand même dans un an. Puis on veut s'assurer d'être prêt, on veut faire partie de la relance. Les artistes le voient comme ça aussi, donc c'est une conversation qui se déroule très bien en ce moment.
Et dites-moi donc, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah bon, on ne sait pas si l'année prochaine ou dans deux ans, ça va être la programmation qu'on a manqué, donc la programmation copier-coller sur l'édition de 2020. » Évidemment, il y a plusieurs impondérables là-dedans. Là. Il y a une question d'horaire puis de disponibilité, fait que je serais très surprise qu'on ait exactement la même programmation l'année prochaine ou dans deux ans. Par contre, je sais aussi que les artistes, la négociation financière avec les artistes, disons que ça dépend d'une année à l'autre, parce qu'un artiste peut être un petit peu moins connu une année et deux ans après avoir connu vraiment une explosion en termes de popularité, puis il coûte beaucoup plus cher. Alors ça aussi, côté budget, c'est une notion à considérer si on veut rebooker les mêmes artistes dans un an ou deux. Est-ce qu'il y a un artiste cette année, sans me le nommer, là, mais un là, que vous avez booké, puis vous êtes dit, hey, lui, là, on a fait une méchante bonne affaire, une chance qu'on l'a cette année, parce que les années prochaines, il va coûter plus cher?
Oui, on en a okay. Des situations comme ça. Puis c'est vraiment du cas par cas. Vous faites bien de dire que le copier-coller intégral n'est pas vraiment une solution pour toutes sortes de raisons. Les artistes ont des cycles. Hein. Parfois, ils vont entrer en studio, ils vont entrer en écriture, ils vont être en période de promo, ils vont être dans une période où ils vont plutôt vouloir être absents, un peu ce que fait Coldplay depuis un petit moment, essayer de prendre, de créer de la rareté. Donc, tout ça est très cyclique. Et puis, malgré le fait qu'on saute une année, il y a des artistes qui avaient déjà prévu de s'en aller en écriture, etc., et qui ne seront pas disponibles au retour. Par contre, il y en a qu'on n'avait pas accès en 2020 et qui seront disponibles en 2021. Puis, nous, lorsqu'on a pris la décision de rembourser les festivaliers, d'une certaine façon, on a coupé le lien qui nous unissait avec les artistes de la programmation. Donc, on n'a pas l'obligation en ce moment de les ramener systématiquement. Ceci étant dit, on les aime, les artistes qu'on a programmés en 2020. On avait une performance extraordinaire au niveau des ventes. On était vraiment partis pour avoir une édition superbe qui se serait commencée aujourd'hui. Les trois accords sont en train de finir le soundcheck en ce moment et de se préparer à voir chaud. Et ça aurait été une très, très belle édition. On en est convaincus. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces artistes-là qu'on va revoir. Peut-être en 2021 ou l'année d'après, peut-être pas tous la même année, mais oui, ces artistes-là, ces têtes d'affiche-là sur toutes nos scènes, c'est des artistes qu'on aime puis qu'on va essayer de revoir. Puis de façon générale, les artistes veulent aussi revenir puis honorer cet engagement-là, pas tellement par amour pour le festival d'été, mais par amour pour leurs fans. Ces artistes-là savent qu'ils avaient créé un lien avec le public ici à Québec puis que les ventes allaient très bien. Puis ils ont envie de mener cette expérience-là à terme. Donc, on peut penser qu'on les reverra en majorité, mais peut-être pas tous, parce qu'effectivement, il y a aussi le cycle de popularité qui fait que dans 2, dans 3 ans, l'artiste peut être complètement ailleurs. Donc, c'est des facteurs à tenir en compte.
Est-ce qu'il y a des pertes d'argent de votre côté quand vous réservez un artiste, par exemple? Est-ce qu'il est payé en entièreté au moment du spectacle ou s'il faut débourser un frais pour le réserver en tant que tel? Vous, est-ce que vous avez perdu de l'argent au niveau du booking ou vous êtes correct pour ça?
On n'a pas perdu d'argent au niveau des transactions avec les artistes. Okay. On est protégé par des clauses de force majeure. Une pandémie, c'est définitivement une force majeure. Donc, dans ce cas-là, tous les contrats sont un peu annulés. Nous, on a perdu évidemment tous nos revenus. Mais on a été chanceux dans notre malchance parce qu'on a eu des très bons partenaires. On a beaucoup de partenaires de commandites dans le privé, dans le public, qui ont choisi de nous accompagner en partie, donc de nous donner une partie des sommes qu'on aurait eues en organisant l'événement. Et il y a de l'aide aussi. Donc, avec tout ça, on s'en sort mieux qu'on aurait pu s'en sortir. Évidemment, c'est une perte sèche importante pour notre organisation. Pour nous, c'est pas quelques mois qui viennent de sauter, c'est une année complète. Donc, évidemment, on sort pas de là plus fort, mais dans les circonstances, on s'en sort bien. Puis les artistes, évidemment, ben pour eux, ils voient ça plus comme des revenus reportés dans la mesure où, dans la plupart des cas, ils sont capables de remettre ces billets-là en vente. Peut-être qu'avec les festivals, c'est plus hasardeux, mais après ça, on s'en va avec tous les concerts en salle. Ben, ils sont reportés à un moment donné, ils vont revenir en salle et ils vont retrouver ces revenus-là. Mais évidemment, c'est quand même une perte puis c'est difficile pour l'industrie en entier.
Non, je comprends. Est-ce que vous avez des nouvelles un petit peu? Bon, j'imagine qu'entre festivals puis entre gros événements comme ça, vous avez des contacts puis des connexions un peu partout en Amérique du Nord. Est-ce que vous savez s'il y a des festivals ou de grands événements qui ont perdu vraiment plus puis qui se questionnent même sur leur survie là, à long terme ou si tout le monde va pouvoir s'en tirer avec seulement une année de perte là, pour l'instant?
Je peux dire que sans les mesures gouvernementales très fortes et généreuses, je pense qu'il y a plusieurs événements qui seraient pas en train de planifier un retour. Donc, il faut s'attendre à ce que la vaste majorité des événements soient de retour. Par contre, je pense personnellement que cette crise-là, l'aspect économique de cette crise-là, on a vu la pointe de l'iceberg en ce moment. Et le véritable challenge dans beaucoup d'industries comme la nôtre, c'est de voir quelles vont être nos performances au retour. Parce qu'une annulation, nous, on a eu la chance de pouvoir se retirer 2 mois avant. S'il avait fallu se retirer à 2 semaines de l'événement, nos coûts auraient été complètement différents. Les conséquences auraient été extrêmement plus difficiles pour nous. Il y a des événements qui ont dû se retirer après avoir engagé tous les frais. Il y a des événements qui se sont retirés parfois à quelques jours d'avis. Je pense à South by Southwest,
oui.
Où l'événement était rendu là. Les dépenses sont engendrées peut-être à 80% et puis on doit faire marche arrière. Donc, il y en a pour qui ça a été beaucoup plus dur. Et de faire un événement qui ne va pas bien, c'est beaucoup plus douloureux que de ne pas faire du tout un événement.
Ah,
alors,
ça, ouais.
Quand on va repartir, si les festivals connaissent pas le succès anticipé, en assistance, en billetterie, en commandite, de toutes les façons possibles, là, il va y avoir d'autres impacts importants, je pense, au niveau économique.
Louis Delavance, je comprends qu'on va travailler pour la prochaine année à avoir une programmation pour 2021. Si jamais on nous annonce qu'on peut avoir un FEC en 2021, juste le temps de dire au revoir à mon invité qui était avec nous pour c'était la conclusion, Monsieur Bellavance, mais je disais donc que je comprends qu'on va travailler pour la prochaine année pour avoir une programmation en 2021. Alors si on a le droit d'avoir un FEC, ben il va être prêt, la programmation va être prête, et sinon ben on se dira à l'année suivante, mais on travaille pour 2021. C'est bien ça?
C'est bien ça. Nous, pour l'instant, c'est le seul scénario qu'on considère, c'est de produire l'événement en 2021 et d'en faire un beau. Alors voilà, l'avenir nous le dira.
Nous le dira. Merci beaucoup, Monsieur Bellavance, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci, bonne journée. Louis Bellavance est le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec.